La revue de presse, Claude Ascolovitch.
France Inter. Le 7-10.
Et mon cher Claude, on parle d'une fortune.
Et d'une particule que la famille Guyon acquit au XVIIIe siècle, devenant Guyon de Princé en achetant château et charge de secrétaire du roi. Patrimoine qui devait tout à la traite négrière. Et dans Ouest-France ce matin, paume ouverte sourit un descendant de cette famille, Pierre Guyon de Princé. Il sourit à Nantes, près de Dieudonné Boutrin, lui né en Martinique et descendant d'esclaves. Les deux hommes sont amis, se disent responsables de l'avenir au nom du passé, veulent créer une communauté des descendants d'esclaves et d'esclavagistes. La famille Guyon de Princé a tout perdu des richesses de la traite. Pierre et Dieudonné sont beaux. Dans l'équipe, regardez la beauté d'un homme, grand et maigre, torse nu, vêtu d'un simple short, devant un génie, petite boule de muscles. Elle date de 1981, cette photo de Maradona, prenant la leçon de César Luis Menotti, qui est mort hier, âgé de 85 ans, un de ses entraîneurs par lesquels le football est un art pour l'humanité. Ce truc du résultat qui prime, c'est une lâche infamie, avait dit Menotti au magazine SoFoot en décembre 2018. L'interview ressort sur le site, somptueuse. Vous lirez que Menotti un jour avait dit à Johan Cruyff « Flaco, tu m'as sauvé la vie ». Car Cruyff, plus grand joueur de son temps, avait renoncé à la Coupe du Monde 78 que l'Argentine avait remportée contre la Hollande. Et sans cette victoire, que serait-il arrivé à Menotti, communiste dirigeant la sélection d'un pays sous dictature militaire fasciste? Sa fédération le protégeait. Et même quand il me parle d'histoire, ce que j'aime chez Menotti, c'est qu'il se souvient qu'il avait donné à Cruyff le surnom qui était le sien, Flaco, le maigre. Menotti, comme Cruyff, faisait du jeu un art. Il se targuait d'avoir inventé le grand jeu du Barça, les passes courtes. Il médisait des entraîneurs qui crient depuis leur banc, ça déconcentre. Mais lui, à la mi-temps d'un match qu'il menait pourtant, pouvait dire à ses joueurs « Si dans 15 minutes vous jouez encore comme ça, c'est que je ne sers à rien, donc je m'en vais. » Il opposait le spectateur qui s'en va au football ou au tango parce que c'est joli, au public qui connaît les chansons et le jeu. Il citait Barenboim, virtuose né en Argentine. Il faut faire attention avec l'excès de répétition parce que ça peut se retourner contre ton œuvre, nous improviserons. On me parle d'un autre homme de beauté sur deux très belles pages de Libération. Sublime photo du bonhomme, le cigare au bec, un t-shirt de l'université américaine Notre-Dame et quel sourire. On me parle de lui dans le Figaro aussi, sur le site du Monde et le site Connaissance des Arts. Et je lis cette phrase célèbre, « Ce que vous voyez est ce que vous voyez ». J'imagine que Menotti aurait pu l'inventer, cette maxime qui est de Frank Stella, peintre et sculpteur, révolutionnaire, inventeur du minimalisme américain, mort lui à 87 ans. Lisez des formes, des couleurs, des querelles de supporters. Êtes-vous Stella ou Pollock? Lisez La Joie et sachez qu'il existe une œuvre de Stella géante et kaléidoscopique dans notre musée national d'art moderne, Colombe, dont le nom est celui d'une cité imaginaire, théâtre des aventures du chevalier John Mandeville, qu'on croyait véridique au Moyen-Âge, mais qui n'était qu'une invention. C'est encore mieux.
Et on parle aussi de pétrole.
Qui de l'eau est l'ennemi, nous dit Libération, encore dans une enquête dérangeante que je résume ici, pardon, résumé et péché. Mais bref, l'État a autorisé l'an dernier une extension de forages en Seine-et-Marne, mais ces forages mis en œuvre menaceraient une nappe phréatique qui alimente en eau potable 180 000 franciliens. La société Eau de Paris s'en va devant le tribunal administratif, discorde dans l'État. C'est une des nouvelles, pas jolies, d'un matin que j'aurais voulu par mes journaux simplement beau. Sur Mediapart, pour faire bon poids, lisez les dérives hors la loi, hors la raison, d'agents et d'anciens de la DGSI. Dans l'Humanité, lisez que cette station, France Inter, selon le journal, je cite, « veut faire taire les voix de gauche ». Cet article vient après ceux du Monde, de Télérama, de Mediapart, du Point, j'en oublie peut-être, qui font suite à la convocation devant la DRH de l'humoriste Guillaume Meurice et à des suppressions d'émissions et de chroniques. Sur le site du Point encore, l'essayiste Chloé Morin s'insurge du licenciement de France Info pour faute grave de son compagnon, le journaliste Jean-François Aquili, pour entre autres un projet de livre avec Jordan Bardella. Je la cite. « Nous parlons d'un média public qui a des comptes à rendre aux Français. Les électeurs RN auront compris qu'ils sont bons à payer leurs impôts, mais ne méritent en retour que le mépris des radios qu'ils contribuent à financer. Il est toujours étrange, disant les journaux, de se voir dans des tempêtes. Ne pas vous le dire aurait été une faute. »
Il est 8h52 et on parle enfin d'un nombre.
53, comme le nombre de jours qu'il fallut à Stendhal pour écrire La Chartreuse de Parme et comme le titre hommage 53 jours d'un roman posthume de Georges Perec, immense écrivain parti en 1982. 53 comme le nombre de romans hommage à Perec que va sortir en 9 ans l'éditeur Thierry Baudin-Hulin. Tous seront un témoignage, une amitié à cet homme, orphelin de la guerre et de la Shoah, qui se cachait liche tragiquement derrière le jeu. C'est encore sur Ouest France, ça parle encore de Nantes, quelle ville ce matin. Et puis, dans le Télégramme, qui la raconte souvent, lisez la métamorphose d'une chanteuse que la France connut dans une joyeuse bande, dite Basile, et qui chantait ceci.
« On fait de pied en canard,
et qui chante, mes amis, désormais, elle chante cela. Voici Alix Cunningham, chouettissime vieille dame, qui dans un livre, par des enregistrements des concerts, rend hommage aux chants gaéliques, les ballades de l'Écosse, des îles Hébrides, les chansons des femmes qui foulaient la laine pour en faire le tweed, et elle chante tant de mémoire. Elle fut célèbre autrefois, invitée de Valéry Giscard d'Estaing, pour la joyeuse chenille, qui semble désormais un malentendu. Avant cela, elle avait été la fille globe-trotteur d'un papa diplomate, elle avait été étudiée le théâtre aux États-Unis, elle avait été chanteuse folle, guitare en bandoulière dans le Paris des années 60, et puis, à l'hasard d'un amour lui avait amené la chenille, un autre hasard l'en a libérée. En 79, après un concert, accident de voiture, elle part se remettre en Angleterre et dans une librairie, je tombe sur un recueil de chants et poèmes traditionnels des femmes des Hébrides. Elle est allée maintes fois là-haut en stop, quérir chez ses chansons, ou dans ce pays où entre loch et montagne, les fleurs lassies s'épanouissent au printemps.